affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Comme vous le savez, nous vivons dans une époque qui n'aime rien tant que juger les précédentes à l'aune de sa propre sensibilité. Rien d'étonnant donc qu'elles se régalent à faire descendre de leur piédestal les gloires du passé, peut-être dans l'espoir inavoué que de la sorte elles se rehaussent elles-mêmes. Dans une telle époque, bien entendu, un homme tel que Gabriele D'Annunzio fait une prise de choix. Aujourd'hui, on ne le connaît plus et ou on le connaît mal. On croit pouvoir en être quitte avec lui en évoquant son décadentisme, son dandisme, son bellicisme, son machisme, voire son proto-fascisme. Autant de traits qui, sans être totalement faux, ne le résument certainement pas, si bien que l'heure est probablement venue aujourd'hui de redécouvrir Gabriele D'Annunzio et son œuvre. Telle est du moins la conviction de notre invité de ce jour. Nous avons en effet la chance et l'honneur de recevoir dans notre studio Maurizio Serra. Monsieur, bonjour.
Bonjour,
nous
monsieur.
Nous recevons, car vous avez publié récemment aux éditions Grasset une biographie de l'écrivain, titrée sans ambiguïté, D'Annunzio, le magnifique, qui a reçu en 2018 le prix Chateaubriand. Je précise que D'Annunzio, le magnifique, c'est un titre qui est emprunté à André Suarez, qui estimait, pour sa part, dès 1919, que D'Annunzio est malgré tout magnifique. C'était il y a 100 ans, exactement. Et donc, nous allons essayer d'examiner aujourd'hui si cela reste valable et si décidément Gabriele D'Annunzio mérite une postérité différente de celle qui est hélas la sienne aujourd'hui. Et pour ce faire, nous allons casser un petit peu le modèle habituel de notre émission. Ça va rester une conversation, mais nous allons procéder en quelque sorte comme un peu un petit jeu littéraire, c'est-à-dire que je vais livrer à notre invité, qui a eu la gentillesse d'accepter ce procédé, un certain nombre de mots pris dans le sens de l'alphabet de A à Z, de façon à ce qu'il puisse, de façon pointilliste, nous dresser un portrait de l'écrivain italien et au passage rectifier un certain nombre de clichés ou de préjugés qui l'affublent, et parfois par sa faute, car c'était un homme qui se mettait en scène et qui parvenait parfois à s'auto-caricaturer. Mais venons maintenant au vrai Gabriele D'Annunzio, et pour cerner un homme, il faut toujours commencer par l'origine, et c'est pourquoi, monsieur, le premier mot que je vous livre pour la lettre A est Abruzzo, la région d'origine de Gabriele D'Annunzio.
Oui, qui est une région à ce moment-là, nous parlons de 1860 et quelques, reculée, assez ignorée, qui se rattache psychologiquement beaucoup plus à une région de montagne qu'à une région maritime, encore qu'elle ait les deux versants et que D'Annunzio vienne d'une famille en grande partie de gens de mer. C'est une bourgeoisie honnête et provinciale dont il veut absolument s'éloigner, tout en lui restant fidèle. Enfin, une fidélité à double tranchant. Il n'a jamais voulu revenir vivre là-bas, mais en même temps, la fidélité à ses attaches et à son carteron d'amis à Bruxelles l'a accompagné toute sa vie.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son milieu familial à travers cette question, je souhaitais vous évoquer cela également. De quel milieu est-il ?
C'est un milieu qui est intéressant parce que du côté maternel, la famille est plus importante et est une famille qui a la vocation très forte de vertus bourgeoises de l'époque, donc le travail, la probité, le sérieux. Et il y a certainement une influence, je tiens à le dire, de cela dans son caractère et surtout dans sa nature d'énorme bûcheur. C'est un travailleur implacable jusqu'aux derniers jours de sa vie, aux dernières heures de sa vie. Il meurt à sa table de travail. Du côté paternel, c'est l'inverse, c'est-à-dire le père est un personnage, un grand baffreur, un personnage haut en couleur, qui a une bonne carrière administrative, mais qui en même temps est joueur et toutes les passions de la vie ne l'épargnent pas et qui va porter en partie à la ruine de sa famille. Et les deux influences du père et de la mère reviennent constamment dans les deux tenants de la nature de Gabriel.
Alors, cette nature mixte issue de ses parents, à la fois le travail et l'appétit pour la vie, se retrouve aussi dans l'époque qui est celle de Gabriel D'Annunzio et laquelle aujourd'hui encore on l'associe à juste titre, et c'est la belle époque, le B de belle époque.
Oui, et quand il monte à Rome à 20 ans, après des études très sérieuses, parce qu'on l'a quand même inscrit au collège Cicognini, qui est le meilleur collège d'Italie, d'où sortira 20 ans plus tard un autre personnage dont je me suis occupé, que les Français connaissent peut-être un peu plus, Curzio Sucert, alias Malaparte. Quand il monte donc à la capitale, décidé à la conquérir et à s'y tailler une place d'envergure dans le journalisme, dans la poésie, dans la littérature, ce sont les derniers feux d'une certaine belle époque qu'on peut associer à cette revue qui donne le titre à une première partie de sa conception esthétique, la revue byzantine, le byzantinisme, donc l'idée de la beauté comme belle époque, mais également du côté de Gabriel, avec une férocité, un appétit vital qui est sans comparaison avec ses contemporains.
Oui, car c'est aussi un homme sérieux qui cultive une certaine forme de, dans son lyrisme, une certaine forme de tragique, passionné d'action. L'action se situe à la fois au centre de son œuvre et de sa vie, et c'est pourquoi je vous demande de réagir sur la lettre C avec le mot condottiere.
Eh bien, c'est ce qu'il souhaite être dès le début. Vous savez, il y a une tradition biographique importante selon laquelle l'homme aurait été un esthète pendant la première partie de sa vie, et ce n'est qu'aux approches de la Grande Guerre et de la déferlante de 14 qu'il aurait vraiment senti son rôle de condottiere. Je n'y crois pas, parce que si on lit des textes, les premiers poèmes, des articles par exemple sur la nécessité de modernisation de la marine, qui est en ce moment-là très importante dans une économie de guerre, et bien de la marine militaire, on sent déjà chez lui une très forte vocation pour le rôle public de condottiere et non seulement d'un poète en chambre.
Il fut député également.
Oui, et cette phase qui a duré 3 ans ne l'a pas particulièrement impressionné sur la teneur et la valeur du Parlement en tant qu'instrument. On a peut-être un peu exagéré certaines critiques qu'il adresse pour voir en lui déjà le nouveau César, celui qui veut aller contre la démocratie. Il faut nuancer tout cela.
C'était aussi l'esprit de l'époque et aussi face à des institutions qui étaient défaillantes, objectivement, même avec des yeux de démocrate.
Ben oui, si on voit justement à quel moment ces institutions n'arrivent pas en toute l'Europe à empêcher une guerre comme la guerre de 14, qui n'avait pas une inévitabilité aussi forte que la Deuxième Guerre mondiale, qui en est d'ailleurs la conséquence, on peut s'interroger.
Alors vous avez évoqué l'Europe et son rapport à l'Europe et à la catastrophe qui monte. Toutefois, cette belle époque, les liens et les échanges qui se font entre les pays ne sont pas seulement des liens de rivalité et de compétition, mais aussi d'échanges culturels, et D'Annunzio y occupera une place majeure, tant et si bien qu'on a pu dire que la France a été ou comme une seconde patrie pour lui. La lettre D sera donc celle du joli mot de douce France.
Mais oui, parce que d'une part, et c'est la raison peut-être derrière également ce projet de biographie, de faire redécouvrir un auteur qui a été découvert au monde par les éditions et par les traductions françaises dès 1890, et surtout par ce grand appel que font Melchior de Vauguyer, Rémy de Gourmont et autres aux députés de la beauté, à l'Union latine, au retour de tous ces thèmes qui sont importants parce qu'ils passent également du côté esthétique au côté politique. Donc, une redécouverte me semblait s'imposer. Et puis, il y a cet épisode de Douce France, donc c'est 5 années de mars 1910, au début de mai 1915, qui, d'une part, nous donne une production abondante et importante, avec des passages au théâtre, surtout sa collaboration avec Debussy, bien sûr, pour le Martyr de Saint-Sébastien, mais également à la prose, et surtout à un lyrisme entre la prose et la poésie qui est nouveau dans son œuvre. Et puis, à partir de juillet 14, sa participation très forte et très convaincue à l'effort de guerre français.
Oui, c'est-à-dire que, contrairement à d'autres, vous scindez cette période française en deux moments.
Oui, je pense, en principe, dans les biographies, on considère que cette période est une période unique. Je pense qu'il y a une période qui va donc de son arrivée en mars, d'ailleurs, disons-le pour des questions de dette, en France, jusqu'au mois de juin, qui se termine finalement avec l'apothéose de sa collaboration avec Bakst, avec les ballets russes, avec Debussy, que je citais tout à l'heure. Et à côté de cela, à partir du moment où il sent la guerre dans l'air, il n'a de cesse de vouloir d'abord que l'Italie intervienne du côté de l'Entente, mais également de participer. Donc il insiste pour pouvoir être au moins correspondant au front, et cela nous donne des hymnes également à l'unité latine et à la conviction profonde que cette guerre est une guerre qui doit souder les nations qui ont des valeurs communes contre les empires périmés du monde d'hier.
Nous avons dit que la postérité de Gabriele D'Annunzio en France était problématique. Il y a toutefois une œuvre qui échappe à l'oubli, et c'est L'enfant de Volupté. C'est le mot que nous avons choisi pour la lettre E. Quelle place occupe ce livre dans son œuvre? Nous savons la place qu'elle occupe aujourd'hui, place presque unique et monopolistique dans les esprits, mais à l'époque.
Mais je pense que c'est un livre très important, et ce qui est quand même assez impressionnant, c'est le livre d'un auteur de 25 ans. C'est son premier roman, ce n'est pas son premier récit, mais c'est son premier roman qui est l'envergure d'un roman, et... Pour résumer quelque chose qui est très frappant dans ce livre, c'est à la fois l'aboutissement de cette belle époque et de ce sens du byzantin et décadent que nous citions tout à l'heure, mais on voit la distance que prend immédiatement ce très jeune auteur qui, loin d'être tout à fait complice jusqu'au bout de ce monde, le voit mourir, et c'est la scène finale magnifique de la vente aux enchères des meubles, et disparaît, s'en va vers la vie. Donc la vie l'intéresse beaucoup plus d'un monde qui finit. D'ailleurs, le livre avait été à l'époque très mal reçu dans la très bonne société romaine et internationale de Rome qu'il était censé peindre.
Alors précisément, on pourrait avoir tendance, à tort, de voir en lui un homme du passé, mais aussi tourné vers le passé, quelqu'un qui ressasse de vieilles gloires, un peu poussiéreuses. Et comme vous l'avez dit, la fin de L'enfant de Volupté démontre tout le contraire. Il est plutôt tourné dans l'appétit vers la vie, mais la vie à l'époque et la petite vie se confond avec des pulsions qui sont également guerrières, ce qui nous mène à l'autre épisode qui lui donne une certaine renommée en France, c'est le fameux épisode de Fiume. Mais il s'agit peut-être de réexpliquer ce dont il s'agit précisément, en dehors des visions parfois un peu caricaturales et médicales que nous en avons.
Oui, enfin, réexpliquer, il faudrait, j'ose dire, d'ailleurs, je dis dans la préface, oui. Un livre entier. Peut-être pas aussi épais que celui-ci, mais presque. Et d'ailleurs, nous aurons le centenaire de Fiume en septembre 2019, donc dans les mois qui viennent. Et déjà s'annonce une profusion de colloques, de publications diverses. Parce que c'est quand même une expérience assez extraordinaire. Résumons-la. En deux mots, l'Italie négocie avec l'Entente, dont fait partie à ce moment-là également la Russie tsariste, un pacte qui sera signé, le pacte de Londres, selon lequel elle entrera en guerre, donc à côté de l'Entente, et cela en mai 1915, à la fin, le 24 mai 1915. Du moins contre l'Autriche-Hongrie, parce qu'il faudra attendre encore une année pour qu'il y ait une déclaration de guerre à l'Allemagne. Sur la base de ce pacte, un certain nombre de territoires dits irrédents, c'est-à-dire habités et historiquement, ethniquement, culturellement, majoritairement, parfois très majoritairement dans les villes d'Istrie et de Dalmatie, devraient passer à l'Italie après la guerre. C'est un peu le butin, si l'on veut dire, de la guerre. Puis il y a la question de Trente et de l'Oadige, mais elle n'intervient pas dans le discours de Fiume. Mais à côté de cela, les alliés, donc les Français, les Anglais et les Russes, ont fait des promesses assez semblables et donc en partie incompatibles aux Serbes pour que se crée un royaume des Serbes, des Slovènes et des Croates qui devrait donc incorporer deux populations qui étant les Slovènes et les Croates sous la férule en grande partie, pas exclusivement de l'Autriche-Hongrie, devraient donc changer de camp et se mettre à côté. Fiume n'intervient pas dans ce discours et c'est la raison pour laquelle au moment, et j'abrège, des traités de la paix de Paris, où donc nous sommes loin du climat, la guerre a été victorieuse pour l'entente. Néanmoins, le problème ressort, la conférence de la paix est incapable de le résoudre, et à ce moment-là, D'Annunzio décide de lancer cette équipée pour brusquer les choses.
Alors, de quoi s'agit-il ? Comment procède-t-il ?
Je pense que le plan d'origine lui échappe un peu à l'origine et différent de celui qui sera réalisé. Je pense que l'idée du départ est une idée d'exécution froide. C'est un disciple napoléonien, non ? Et est simplement celle de s'emparer de la ville. Et du moment où il y a un contrôle de la ville, on négocie. Et alors, il se trouve qu'à ce moment-là, un complexe de situations, même locales, fait que la notabilité, il y a également des problèmes sociaux, il intervient dans le prolétariat de la ville, une influence également de la Révolution d'octobre. Et donc, on lui dit, bon, très bien, vous êtes là, de condottiere, vous devenez commandante, vous vous débrouillez, et vous verrez. Et là, il s'enferre un peu dans une situation qu'il n'avait pas prévu dans cette durée.
C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il part comme un corsaire, avec 100 lettres de cachet, mais avec le sentiment de servir néanmoins son pays, et d'avoir une forme de, non pas de complicité, mais d'acceptation implicite au moins, et il se retrouve plutôt comme un pirate abandonné dans son île.
Oui, enfin, corsaire pirate. Le fait est qu'au départ, il est revenu sans un sou de toute l'opération des 500 jours de Fiume, mais il n'a pas touché un sou de salaire. Mais enfin, en dehors de cela, parce qu'évidemment, on a parlé de fortune qu'il aurait amassée quand il est parti de 20 ou 30 camions qui le suivaient. Enfin, on en rajoute comme on veut avec un personnage de ce genre. Mais le fait est que, je ne sais pas s'il est vraiment une complicité, je pense qu'il a voulu bousculer à la fois les Italiens et les Alliés face à une situation qui était bloquée sur le plan des négociations et qui fatiguait les Alliés, parce que c'était au fond un problème assez mineur dans le cadre des traités de Paris qui avaient devant des situations majeures concernant notamment l'Allemagne. Alors, de guerre lasse, on a fait en sorte qu'il y ait un déblocage. Mais au moment où il est arrivé là, cette expédition qui devait être courte devient la gestion d'une ville et d'un territoire, malgré tout, de 100 000 personnes.
Oui, dure 500 jours.
Et dure 500 jours. Et à partir d'un certain moment, le goût du pouvoir, qu'il n'a jamais vraiment eu, il a eu le goût de la conquête toute sa vie, mais il n'a pas eu le goût du pouvoir, le goût de devenir justement le commandant et le législateur de la ville, entre un peu et nous passons dans la deuxième phase, qui est la phase, disons, de constitution d'un exemplaire, d'un modèle politique unique dans l'Europe d'alors.
Alors, ce qui est intéressant avec Fiume, c'est que généralement, lorsqu'on l'évoque, c'est pour en faire quelque chose comme qui annoncerait la marche sur Rome, voire la République de Salo. Vous nous expliquez que ça peut parfaitement être envisagé aussi comme un événement précurseur de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire qu'il y a un aspect brigade internationale même dans...
Oui, mais enfin, les faits, si je cite la guerre d'Espagne, c'est simplement pour dire que les intellectuels affluent et se sentent concernés par cette idée d'internationalisme culturel, mais... J'ajoute que ce qui est quand même très différent, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de victimes à Fiume. Les 500 jours se terminent dans le sang par une décision absolument narcissique et absurde de D'Annunzio qui veut bluffer avec les Italiens qui doivent quand même reprendre la ville qui devient un embarras dans les traités de paix. Et à ce moment-là, il y a une vingtaine de morts tout à fait inutiles. Mais ce sont des morts entre Italiens. Il n'y a pas de violence au sens de guerre civile. Alors, les deux autres cas que vous évoquez, c'est de l'amicale provocation. Parce que dans le cas de marche sur Rome, non, je pense que nous en reparlerons peut-être quand nous arriverons à la fatale lettre M. Donc, je garde quelque chose à dire à ce moment-là. Quant à la République de Salo, mais ça n'a strictement rien à voir.
Toutefois, cette affaire de Fiume démontre quand même certains rapports, mais assez communs à l'époque, de fascination pour le coup de force, pour la violence, pour la guerre. Et je précise que vous avez d'ailleurs rédigé précédemment, je crois aux éditions du Seuil, si je ne me trompe pas, un ouvrage sur les poètes égarés.
Guerriers égarés.
Et sur ce lyrisme de la guerre qui s'empare de l'ensemble des sociétés européennes à ce moment-là, avec les conséquences que l'on sait. Pouvez-vous nous parler de ce rapport de D'Annunzio à la guerre, et non pas factuellement, mais c'est-à-dire qu'est-ce que ça représente pour en termes de poésie, de lyrisme, d'idéologie, au-delà de la politique ?
Écoutez, il y a certainement lui en 14, mais oh. Hélas, combien c'est banal dans le panorama culturel de toutes les nations en guerre ou qui s'apprêtent à entrer en guerre, ce que j'appelle un bellicisme décomplexé. Il invoque la guerre comme l'invoquent parmi les meilleurs intellectuels français, anglais, allemands, autrichiens. Il y en a très peu, nous connaissons, qui se mettent au-dessus de la mêlée à ce moment-là. Donc c'est un moment qui s'empare, qu'on peut juger comment veut, n'entrons pas dans ce débat, mais qui s'empare certainement des esprits européens jusque vers les premiers grands massacres déjà à la fin de 14. Il y a une correspondance magnifique d'ailleurs entre Freud et Ferenczi à ce propos. Freud qui parle du moment qu'il a senti de participer à une pulsion collective et puis tout de suite après comme une réaction qui entrait dans le plus intime profond de lui-même, de savoir que c'était faux et que c'était la fin d'une certaine Europe. J'abrège, mais c'est une lettre magnifique, enfin, un échange de lettres magnifique. Donc D'Annunzio fait partie d'une mouvance, au fond, assez banale. Je dois dire que néanmoins, à l'idée qui persiste encore, notamment dans son pays d'origine, d'un homme qui verrait dans la guerre le sang, la volupté, le déchaînement des passions, on trouve dans son œuvre et notamment dans ses carnets qui sont magnifiques et à l'époque de la guerre, des passages sur l'inutilité du carnage. J'ai mis cette phrase en exergue parce qu'il y a quand même des moments où il découvre. Et il y a une autre scène qui est à mon avis très troublante, qu'il a fait plusieurs pages, où il décrit un épisode de décimation après une tentative de désertion au front. Et on sent puissamment qu'il est de côté des fusillés, se dit « Je ne me demande pas si vous êtes innocent ou coupable, je sais que vous êtes mes frères. »
Revenons à la littérature avec une incursion vers un domaine plus érudit. Pour la lettre H, nous avons choisi Erhel, comme Georges Erhel, son ami et traducteur.
Oui, mais c'est une très belle histoire d'amitié, enfin pendant les 20-25 ans où elle dure vraiment, la rencontre entre deux personnages qui n'ont apparemment rien en commun, c'est D'Artagnan et Porthos, ou Athos, je ne sais pas, entre ce paisible professeur de province qui, par modestie personnelle, tout en étant d'une grande érudition, a refusé une grande carrière universitaire et qui, en même temps, découvre ce jeune auteur, plus jeune que lui, avec des sentiments qui sont des sentiments d'affection paternelle, et pour en arriver à l'essence littéraire, bien qu'on ait beaucoup critiqué, parfois d'une façon même agressive, les traductions de Erhel, notamment de l'Enfant de Volupté que nous citions tout à l'heure, eh bien je pense
parce
que...
Parce que c'était assagi, c'est ça ? C'était poli de façon un peu bourgeoise.
Et on a repris un peu, si vous voulez, l'idée de Danone, sur qui portera d'ailleurs à leur rupture, selon laquelle vous embourgeoisez mon style, vous me transformez en un Paul Bourget, en un auteur de Troisième République, c'est pas du tout ce que je suis un révolutionnaire. Donc il y a des échanges et cela inévitablement portera plus tard à une différence sensible déjà autour du séjour de Danone sur France. Mais au contraire, je pense que les traductions de Erhel qui enlèvent un peu de graisse, un peu de substance à l'original, quand même nous rapproche d'un langage moyen d'aujourd'hui qui permettrait peut-être aux lecteurs français de récupérer plus facilement, il faudrait les polir un peu, les émonder, mais de se rapprocher un peu plus de Danone que des traductions plus empanachées qui sont venues après.
Pour la lettre I, nous avons choisi Innocent, et ce n'est pas Innocent, car c'est le titre que vous avez donné à l'une des parties de votre ouvrage, mais tout en précisant, et ce sera l'occasion, que D'Annunzio n'est pas un homme à séquence, mais qu'il est entier. Et que donc, au-delà de l'innocence, il ne faut pas s'arrêter à l'innocence, et cette innocence ne vient pas contre ces autres aspects.
Oui, permettez-moi de revenir à G, parce qu'à côté de guerre, j'aurais peut-être dû également dire le mot grec. C'est une nature plutôt grecque, beaucoup plus grecque que latine d'ailleurs. Et il a la nécessité d'avoir la composition constante des éléments contradictoires qui sont dans sa nature, et de les vivre ensemble. Et voilà pourquoi il n'y a pas d'innocence s'il n'y a pas de volupté, et il n'y aurait pas volupté sans innocence. On peut évidemment revenir, c'est un peu facile, à la polarité des origines père-mère, donc devoir contre plaisir, mais c'est sa nature profonde, intime.
Oui, c'est important parce que lorsqu'on le décrit comme décadent, décadentiste, on peut avoir la tentation d'y voir quelqu'un qui jouit d'une forme de perversité, et ce n'est jamais le cas.
Non, sauf peut-être dans les dernières années du Vittorial, et je pense qu'on en reparlera, où effectivement la recherche de la volupté, la sensualité qui l'a toujours dominé, le pousse vers le Viagra de l'époque ou vers des drogues, des gymnastiques compliquées, mais ça c'est pas vraiment intéressant. Ce sont des détails, hélas, qui ont été colportés sur le personnage, mais...
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne jouit jamais du malheur des autres. Vous dites à un moment qu'il est plus porté à l'admiration qu'au ressentiment.
Oui. L'admiration, il ne l'admire pas toujours parce qu'il s'admire trop pour admirer vraiment les autres, mais je pense que nous parlerons du narcissisme. Mais... Il est vrai que même s'il y a chez lui des agressions verbales, dont d'ailleurs Fiume est un témoignage, et plus tard, contre ses adversaires avec des termes très injurieux, à côté de cela, oui, il a ce plaisir intimement, intellectuellement et sensuellement grec et latin de découvrir toujours la beauté dans l'univers, y compris dans l'œuvre d'autrui. Évidemment, la sienne étant préférable.
Il y a une très belle citation de D'Annunzio que vous répercutez à propos de l'envie, qu'il définit comme le vice capital des imbéciles, car c'est le seul des sept qui ne procure aucune joie.
Oui, et la joie domine sa notion de la sensualité. C'est très impressionnant, par exemple, de voir, nous citions tout à l'heure Malaparte, et de voir à quel point Malaparte a imité D'Annunzio sur bien des choses, mais sa frigidité naturelle est à l'opposé de l'extraordinaire joie physique de D'Annunzio qui, malade, vieux, se tournait vers le soleil parce qu'il avait, besoin de sentir même ce moment de chaleur.
Alors justement, puisque vous venez d'évoquer sa vieillesse, il parle avec des mots très très durs de la vieillesse et du sentiment d'être affaibli. Je crois qu'il parle de la torve vieillesse,
oui.
C'est ça ?
L'obscène, la torve, l'obscène vieillesse.
Voilà. En creux, cela signifie donc qu'il y a un culte de la jeunesse. Pouvez-vous nous éclairer sur celui-ci ? Il est assez commun, mais enfin, il prend certainement des traits particuliers chez D'Annunzio.
Eh bien, le culte de la jeunesse est une fidélité à ce qu'il a voulu être toute sa vie. Il dira à ce moment-là, ne pouvant trouver d'autre formule, je n'ai peut-être plus 20 ans, mais j'ai 2, 3, 4 fois 20 ans pour les compter de cette façon. Cela a des aspects qui peuvent nous faire un peu sourire, peuvent être à la fois touchants et allant un peu vers la caricature. Mais je crois que la pute...
Nous sommes mal placés pour sourire de tels sentiments à l'oreille du XXIe siècle.
Hein, parce voilà, que... je pense quand même que c'est toujours cette idée, si vous voulez, un peu simple, parce que ce n'est pas un penseur extrêmement profond, c'est un artiste... d'une grande originalité et d'une grande envergure. Ce n'est pas un penseur. Et d'ailleurs, il ne souhaite pas l'être. Et cette idée, donc, qui peut être simple, c'est que la jeunesse est quand même plus proche de la vie. Et c'est la vie qui l'intéresse. C'est très intéressant de voir deux autres de ses disciples français, dont l'un lui a été fidèle jusqu'au bout et l'autre l'a un peu renié, sinon oublié, après l'avoir imité. Je parle de Monterland, le fidèle, et de Malraux, un peu moins fidèle, ont tous les deux l'obstination de la mort. La mort revient, surtout dans la dernière phase de leurs œuvres. Chez D'Annunzio, elle revient par défaut, parce qu'elle est là. On ne peut pas, et surtout dans le livre secret, dans Nocturne. Mais finalement, c'est la vie qui l'intéresse jusqu'au bout.
Comme le temps passe, passons justement, sautons la lettre K pour passer directement au livre secret, qui est donc le livre de sa fin de vie.
Oui.
Monumental.
Je pense que c'est un livre très important. D'ailleurs, il y en a une magnifique traduction française. Ce livre est un livre qui surprend à sa sortie en 35 en Italie et qui a peu de diffusion internationale parce qu'au moment-là, D'Annunzio est assez oublié en tant qu'auteur. On peut dire qu'il y a des défauts de composition. C'est une sorte de dernier texte dans lequel se rassemblent des passages très différents et des époque très différente. Des poèmes également, mais je pense que ce qui donne la patte vraiment du grand écrivain, même finissant, c'est qu'il reprend tous les thèmes qui lui sont chers et qui sont si proches toujours de sa sensibilité. C'est là, il n'invente peut-être pas, mais il ne renie rien et il confirme toutes celles cette lancée profonde de son œuvre.
Alors on est dans la partie, il rédige cette œuvre-là, dont vous nous dites qu'elle se rattache tout à fait au plus profond de sa personnalité, que donc il y a une unité de Gabriele D'Annunzio, ce qui empêche en fait ses admirateurs d'utiliser ce procédé un peu facile, de dire un petit peu comme on dit de Céline, il y a le gentil Céline, qui est le romancier, et puis il y a le mauvais Céline, celui des pamphlets. Procédé facile, mais efficace.
Mais bien sûr.
S'agissant de Gabriele D'Annunzio, si c'est un homme entier et d'un bloc avec ses propres contradictions, néanmoins, ce n'est pas possible, ce qui nous amène à parler de la fameuse lettre M que vous annonciez d'ores et déjà tout à l'heure. Pouvez-vous donc nous parler de ces rapports complexes, visiblement, avec Mussolini.
Eh bien, je vais vous dire, c'est au fond complexe, mais relativement, qu'on peut relativement simplifier dans une émission, parce que il y a un moment où les deux hommes se rapprochent. D'ailleurs, Mussolini cherche D'Annunzio parce que c'est un personnage haut en couleur qui est sorti, ne l'oublions pas, d'une guerre, blessé, il a perdu un œil, médaillé, avec des actions d'un héroïsme peut-être tapageur, mais incontestable, du début à la fin. Bon, Mussolini n'est rien. Donc, à ce moment-là, c'est lui qui cherche, donc c'est la première phase, le courtise, et l'autre accepte, donc nous parlons même de 18, 19, que ce mouvement qui sent un peu révolutionnaire corresponde à ce qu'il veut faire contre les traités de paix. Parce que, au-delà de la question de Fiume, il faut peut-être dire que ce que D'Annunzio n'aime pas dans les traités de paix, c'est qu'il sent revenir la grâce, la vieille Europe. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est contre les traités sur la culpabilité de l'Allemagne, lui qui a été germanophobe pendant la guerre. Il est contre le fait que ce qui n'est pas encore l'Union soviétique n'intervienne pas dans les traités. Donc,
oui, c'est un homme qui vit au présent.
Qui sent quand même que tous ces mouvements appartiennent d'un monde qui se fait, alors que l'autre s'est défait par ses propres choix, et on ne peut pas le remettre ensemble comme si rien ne s'était passé. Et c'est ça que Mussolini sent également. La différence, c'est que chez D'Annunzio, c'est une position d'artiste qui veut d'une certaine mesure entrer dans la sensibilité moderne. C'est d'ailleurs le moment où il s'intéresse aux nouvelles tendances artistiques et littéraires, lui qui semblait être dépassé, que ce soit le futurisme, que ce soit le dadaïsme, ainsi de suite. Mussolini est un homme de pouvoir. Il veut le pouvoir. Il se passerait de Fiume, et d'ailleurs il l'abandonne, il le trahit au moment de Fiume, mais il aurait donné Rome ou Milan rien que pour avoir le reste. Lui, il veut le pouvoir. Donc c'est cette première phase. La deuxième phase, très courte, est celle où, en réalité, Mussolini, qui a, de ce point de vue, un tacticien formidable, joue D'Annunzio contre le pouvoir, disons, monarchiste, traditionnel, des notables de Rome qui essaient de revenir, et les uns contre les autres, et finalement émerge comme le seul homme, et la marche sur Rome est anticipée d'une dizaine de jours au 28 octobre, parce que le 4 novembre aurait dû y avoir une grande manifestation de rassemblement national à la présence du roi et du Parlement, d'où dans laquelle D'Annunzio aurait dû être l'orateur officiel. Grande réconciliation, les socialistes peut-être également présents de l'Italie. Donc, il faut anticiper ça. La troisième phase, j'abrège et je termine, est finalement une phase où D'Annunzio reste l'un des seuls véritable, et on a encore du mal dans son pays d'origine, ce qui est honteux, parce que nous avons toutes les preuves en Italie, l'un des seuls et des derniers qui combattent encore après la marche sur Rome, en 23, en 24, enfin qui ferraillent, qui interviennent, qui font des vagues, qui tâchent de fédérer, et puis de guerre lasse, il se retrouve tout seul, et nous avons la dernière phase qui va jusqu'à sa mort, où c'est essentiellement un stipendier du régime, mais il n'a jamais été fasciste, ni de cœur, ni de raison. Et d'ailleurs, le fascisme s'est bien fait repayer ses largesses, vu qu'il a laissé son fief du Vittoriale et les droits de toutes ses œuvres à l'État.
N'y a-t-il pas quand même entre les deux hommes une forme de rivalité mimétique.
Ah mais non, il y avait eu au début, quand on voit très bien ça dans leur correspondance, quand Mussolini le flatte, l'autre évidemment est assez séduit, mais puis son instinct, D'Annunzio toujours gardait un instinct de paysan des Abruzzes avec un nez très fin pour humer là où, ayant lui-même beaucoup pratiqué la courtisanerie envers les autres, il savait très bien quand on l'a pratiqué, il savait décrypter.
Oui, vous précisez que c'est un réaliste italien.
Ah, c'est un réaliste jusqu'à la moelle qui sort vraiment de l'époque
évident,
de la Renaissance.
Ah
oui, c'est un réaliste parce que, avec des exceptions, je vous dis l'éclipse de Fiume, l'expédition en elle-même est assez réaliste au début. après, non. Donc il y a évidemment des moments, mais en général, et malheureusement, ce réalisme le porte à accepter Mussolini. Il sait que le régime va durer.
Son réalisme le pousse aussi à essayer de dissuader Mussolini de faire alliance avec l'Allemagne, ce qui est un point qui mérite certainement d'être développé, et jusqu'au bout.
Nous ne savons pas encore, il y a plusieurs sources, mais c'est un dialogue constant entre chercheurs, les sources de cette précoce détestation, même physique, ce qui est quand même assez rare chez lui, du personnage Hitler. Même avant qu'il ne devienne le chancelier Hitler, et bien sûr avant qu'il ne devienne le Führer Hitler. Et il essaie par tous les moyens de reporter Mussolini d'abord à l'amitié avec la France, qui est une constante chez lui, donc un peu pathétiquement à reprendre le mythe ça a été une réalité dans la Grande Guerre, de l'union entre la France et l'Italie, alors que les dirigeants des deux pays faisaient tout le possible à ce moment-là, nous parlons des années 30, surtout après la fin du pacte de Stresa, de l'éphémère pacte de Stresa, pour éloigner les deux pays et les deux peuples. Et d'autre côté, cette constante anti-hitlérienne qui est claire, qui est nette, et à tel point que Mussolini en est excédé, parce qu'intimement, il sait qu'il a raison, peut-être, mais il ne veut pas le concéder.
Alors, ma transition avec la lettre N a été ruinée. Je parlais de rivalité mimétique et je voulais arriver à N comme narcissisme. La transition a disparu, mais traitons quand même ce mot, narcissisme.
Là encore, ce n'est pas un cas d'exception parmi les artistes majeurs et mineurs. C'est le moi est peut-être haïssable, mais pas pour lui. Il domine. Il faut dire que, avec quelques excès qui sont insupportables. D'une certaine façon, c'est encore une vision quand même classique de la personne. C'est-à-dire, c'est à travers le moi que la vie se perpétue, que la vie continue. Donc, ce que nous percevons comme le reflet de Narcisse qui ne se touche pas, qui n'arrive pas vraiment à percer la surface, chez lui est réel, est charnel à tout moment. Donc, me semble-t-il, l'absout un peu de cette idée d'un narcissisme d'abstraction qui est très moderne, hélas.
Alors, pour essayer de mieux cerner ce narcissisme ou cet égotisme, est-ce que vous pourriez nous faire la comparaison avec celui, par exemple, de Maurice Barrès, qui est plus connu en France ? Plus très bien, d'aujourd'hui, mais un peu connu quand même.
Eh bien, non, je pense qu'au début, d'abord, leur œuvre est parallèle jusqu'à la Grande Guerre. Ils ont beaucoup de choses en commun. Je pense que la différence, quand même, assez sensible, d'une part, c'est que l'engagement de D'Annunzio en guerre d'abord, et puis pour les revendications italiennes et sur Fiume notamment, les éloigne. Mais je pense que le terrain sur lequel opère D'Annunzio jusqu'à la fin est plus proche du premier Barrès. Vraiment, le culte du moi, et à certains moments, le culte du moi devient un culte de la nation, un culte du terroir, ce qui finalement n'intéresse pas vraiment D'Annunzio, paradoxalement.
Alors, puisque nous avons évoqué Maurice Barrès est celui qui a relu, si je ne me trompe pas, l'un des opéras, livrets d'opéra, écrit par D'Annunzio pour Debussy, enfin en collaboration avec Debussy. La lettre O est donc celle pour O comme opéra, car dans la vaste palette de ses productions, il y a aussi des livrets d'opéra.
Oui, alors la question est essentiellement une question artistique, mais comme toujours avec le flair de ce qui peut plaire au public. Il a, n'oublions pas, un sens publicitaire. Donc quand il arrive en France, il voit qu'à côté du théâtre, et son théâtre ne passe pas toujours bien en version française, c'est un théâtre de grand lyrisme, donc il exige d'abord une traduction de haute voltige, et puis à côté de cela, une distribution un peu particulière. Donc il se dit, l'opéra est prometteur, il voit autour de lui ce qui se passe, les ballets russes, Bach, le premier Stravinsky, et donc l'idée est de faire un grand opéra avec Debussy, où il y aurait une absolue indépendance idéologique par rapport à d'autres moments de ce qui se fait en France à ce moment-là. Donc, une reprise néoclassique, si l'on veut, à un moment. C'est un pari qui tente également Debussy, et avec la même auteur du texte et de la musique. On peut discuter du résultat, mais la collaboration entre les deux hommes est excellente, et il est vrai, Barrès intervient pour la relecture du texte.
Ce qui transcende, ce qui relie peut-être l'ensemble, quand on lit du De Nogo, et j'en ai relu quelques passages pour me documenter avant cette émission, on a le sentiment que qu'il s'agisse... d'opéra, qu'il s'agisse de romans, de discours, d'articles, au fond, il s'agit toujours de poésie. Est-ce que je veux...
Mais oui, vous pouvez également y ajouter une chose sur laquelle il a un peu gagné sa vie et repayé ses dettes rien que pour en faire d'autres, parce que c'est un endetté permanent, et ce sont les slogans publicitaires. Les slogans publicitaires, il en pond par dizaines à tout moment de sa vie, quelques-uns gratuitement d'ailleurs, et quelques-uns sont très beaux. Par exemple, en 1917, la chaîne de grands magasins milanais, quel titre lui trouve-t-il pour cette chaîne de grands magasins? Nous sommes en 17, au pire moment de la guerre, la Rinascente, la Renaissante, donc celle que nous attendons après la guerre.
À son propos, vous écrivez que la poétisation active, combattiste, protéiforme, inassouvissable de l'existence, était sa quête.
Oui. Je n'ai vraiment rien à ajouter.
Du coup, sur cette lettre, tant mieux car l'heure tourne. Le rythme même de la phrase que je viens de lire démontre aussi la nervosité du personnage et de son écriture. Tout à l'heure, vous aviez parlé du futurisme, ce qui nous mène très naturellement à la lettre R comme rapidité.
Oui, il a un culte de la vitesse. D'ailleurs, il consacre probablement le premier roman en 1910 dont le titre a été conservé en français, Forse che sì, forse che no, à la grande nouveauté de l'aviation. Enfin, tout ça le transporte, c'est le cas de le dire. Mais en même temps, ce qu'il n'a pas du futurisme, c'est la rupture avec le passé. Il est trop classique de ce point de vue-là. Donc, il veut que la rapidité, que la vitesse soit un ingrédient de notre vie, mais que cette rapidité, que cette vitesse coïncide un moment, en même temps, avec un paysage immémoriel dans lequel se perpétue notre civilisation.
Donc, pour l'automobile, mais sans détruire la victoire de Samothrace.
Voilà. Très bien.
Alors, nous avions parlé de l'opéra et de sa vie conçue comme une œuvre d'art. Alors, ça, et en quelque sorte, avec le lyrisme qui est celui des œuvres lyriques, justement, il y a un personnage qui joue un grand rôle dans sa sensibilité artistique, mais d'une façon assez curieuse, c'est celui de Wagner.
Oui, enfin, ce n'est pas si curieux que ça si l'on pense que l'influence que Wagner a eue sur toute la sensibilité européenne fin de siècle est immense dans tous nos pays. Pardon. Donc, même en Italie, que d'ailleurs Wagner considérait sa seconde patrie, non seulement par les longs séjours qu'il faisait à Venise, mais parce qu'il y était reçu et fêté beaucoup plus qu'en France ou ailleurs, n'est pas en soi particulièrement original. Ce qui est original, c'est que à cette influence wagnérienne dont le pinacle est probablement représenté par le roman vénitien du Feu, le Feu, où on voit d'ailleurs l'image de Wagner qui passe et même il en rajoute dans le cortège qui accompagne, dont le protagoniste fait partie, ce qui n'était pas la réalité, jusqu'au train qui le ramènera en Allemagne. Eh bien, c'est le pinacle, mais c'est en même temps la fin. C'est exactement ce que nous disions de l'enfant de volupté. Donc, et c'est absolument typiquement d'Annunzia. Vous portez un concept, une notion, un mouvement, une sensibilité, jusqu'à son point le maximum, et vous le lâchez, et ça ne vous intéresse plus. Et c'est la raison pour laquelle il devient, au fond, foncièrement anti-wagnérien à partir de ce moment.
À propos de Wagner, vous soulignez combien ce qui l'intéresse aussi, c'est la volonté de créer une œuvre d'art totale.
Oui, c'est évidemment la raison pour laquelle les trois composantes de son lyrisme, qui sont le verbe, et en même temps la scène, et le rapport entre le héros, le condottier, et les chœurs, c'est quelque chose qu'il va essayer toute sa vie, même jusqu'au Théâtre de la Fête à Paris en 1910-1911, de créer. Oui, bien sûr, il voulait son Bayreuth.
Alors pour terminer notre abécédaire par les lettres X, Y et Z qui m'ont posé beaucoup de problèmes, je dois dire. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des mots associés, des mots d'Annunzien associés à ces lettres X, Y et Z. Et donc j'ai pioché dans le répertoire contemporain. Ces lettres désignent aujourd'hui les dernières générations, génération X, Y et Z dans le sabir, notamment managérial. Toujours est-il que ça nous permet d'introduire cette question brûlante qui figurait au début de notre entretien, que peut apporter aux générations contemporaines Gabriele D'Annunzio, ce passeur entre le 19e et le 20e siècle, en ce début de 21e siècle. Qui trouver, qui puiser, qui puisse nous aider à retrouver un élan, car ça ne vous a pas échappé, l'époque a besoin de retrouver un certain élan.
Oui, mais vous savez, la réponse à votre belle question est à la fois simple et complexe. Elle est simple dans la mesure où tout grand auteur, et je pense que les trois quarts de son œuvre prouvent que c'est un grand auteur. D'ailleurs, quand je parle des trois quarts de son œuvre, je ne veux pas distinguer des titres par rapport à d'autres, ce qu'on m'a parfois demandé, parce que tout est mélangé chez lui. Donc, aucun livre n'est négligeable, aucun livre n'est parfait.
Mais vous dites que dans chacun des ouvrages, il y a quelques pages qui méritent d'être...
Au moins, oui, et parfois plus, bien sûr. Mais donc, c'est encore typique de cette constante superposition entre toutes les facettes de son talent, de sa nature, de sa personnalité. Donc, d'une part, elle est simple, parce que tout grand auteur peut nous faire croître, peut nous enrichir, peut nous faire du bien. Et en même temps, elle est complexe, parce que certainement, par rapport à d'autres auteurs français ou étrangers, le parcours est un parcours qui est tellement alimenté par la complexité historique de son époque et de cette phase de l'époque de l'Europe, surtout entre la fin du 19e siècle et la partie peut-être la plus tragique, enfin ou qui prépare la plus tragique, parce qu'il meurt en 38 avant le déchaînement terrible de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, je pense qu'il faut lire D'Annunzio en connaissant également le parcours. Donc c'est un effort de connaissance qui s'impose aux jeunes générations et je souhaite qu'elles le fassent.
Monsieur, merci beaucoup pour les aider à naviguer dans cette œuvre immense. Je ne peux qu'inciter nos auditeurs, et notamment les plus jeunes d'entre eux dont nous parlions, mais enfin là il y a quand même déjà trois générations, donc c'est une jeunesse un peu élastique, à commencer, pourquoi pas, par votre magnifique biographie de D'Annunzio. J'en reprécise donc les références. D'Annunzio, le magnifique, c'est aux éditions Grasset, par Mauricio Serra. Monsieur, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci beaucoup et merci à tous vos auditeurs. Thank you.